En plein convoi, la profession qui sera à l'arrêt aujourd'hui. Journée prison morte partout en France. Une personne tuée par balle cette nuit en Nouvelle-Calédonie, en marge des émeutes qui secouent l'archipel depuis deux jours. Le couvre-feu est reconduit à Nouméa, alors que le texte qui a mis le feu aux poudres a été adopté à l'Assemblée cette nuit. Et puis à Paris, le mur des justes du mémorial de la Shoah, vandalisé par des pro-palestiniens, une enquête a été ouverte.
Et puis, est-ce que l'eau du robinet dans les petites communes est vraiment si propre? Enquête à suivre, ne la manquez pas à 7h20. La traque se poursuit ce matin au lendemain de l'attaque d'un fourgon pénitentiaire dans l'Eure.
Attaque d'une rare violence sur l'autoroute A13 au niveau du péage d'Incarville qui a donc coûté la vie à deux agents de 34 et 52 ans. Trois autres sont blessés, dont un très gravement. Le convoi en transfert entre le tribunal de Rouen et la prison d'Evreux a été pris pour cible par un commando de quatre hommes qui sont parvenus à s'échapper avec le détenu Mohamed Amra. Avec nous ce matin, Guillaume Bié, le chef du service police-justice d'RMC. Guillaume, que sait-on du dispositif déployé pour retrouver les cinq fugitifs?
Alors, contrairement à hier, c'est un dispositif beaucoup plus discret qui est désormais en place. Le vaste déploiement de 200 gendarmes, le plan Épervier, l'hélicoptère, l'appui du GIGN n'ont pas permis de retrouver les fuyards hier. Alors, c'est maintenant une phase d'investigation, d'enquête qui est menée par les spécialistes de la police judiciaire, notamment la Brigade nationale de recherche des fugitifs, mais aussi les policiers qui luttent contre le crime organisé, plus les enquêteurs locaux et la police scientifique, fortement mobilisés pour analyser tous les indices relevés, à commencer par les dernières traces du commando, ces deux voitures incendiées que les auteurs ont abandonnées dans leur fuite, ainsi que celle qui a servi à bloquer le fourgon. La PJ remonte le parcours de ces voitures volées, examine en parallèle la téléphonie, la vidéosurveillance, exploite les témoignages, les renseignements qui peuvent aussi provenir de certains indices, et puis l'entourage du détenu évadé également, tout ce qui peut aider à identifier ses complices et ses soutiens et à le localiser.
Et évidemment, Guillaume, la cible numéro un ce matin, c'est Mohamed Amra, un détenu qui ne fait pourtant pas partie du haut du spectre des narcotrafiquants.
Non, c'est d'ailleurs ce qui est assez surprenant pour les enquêteurs quand on voit les moyens que le commando a mis en œuvre et surtout la violence de ses membres qui n'ont pas hésité à tuer froidement des agents pénitentiaires. Bien, ça ne correspond pas au profil de moyenne envergure en apparence, pourrait-on dire, concernant Mohamed Amra, qui a 30 ans, qui a déjà été condamné 13 fois, mais pas pour des affaires de grande ampleur jusqu'à présent. En revanche, depuis 3 ans, son nom revient dans des dossiers de règlement de compte autour du trafic de drogue. Il est d'ailleurs mis en examen dans deux affaires criminelles, dont un assassinat près de Marseille il y a 2 ans. Et donc son évasion d'hier prouve aussi qu'il est entouré de tueurs qui ne reculent devant rien.
Et ce matin, c'est toute une profession qui se réveille sonnée par ce drame du jamais vu en plus de 30 ans, qui a donc visé, la procureure de la République de Paris l'a rappelé hier soir, des pères de famille. Le plus jeune d'entre eux, tué par le commando, s'apprêtait à le devenir. Sa compagne est enceinte de 5 mois. Pour son collègue Frédéric Bescon, la nouvelle est évidemment très dure à encaisser.
On est aujourd'hui dans le deuil le plus total. C'est des agents qui étaient très gentils. C'était quelqu'un de formidable, qui avait beaucoup d'humour, qui était apprécié de tous. C'était vraiment un bon collègue. Et puis, on ne s'attend pas à perdre la vie si jeune dans des conditions pareilles. On est abasourdi. On ne s'attendait pas à ça. C'était un acte d'une barbarie, c'est innommable. Je ne sais même pas s'ils ont eu le temps de se rendre compte de ce qui leur arrivait. C'est terrible, c'est dramatique. À voir les images... on se croit vraiment dans une zone de guerre, quoi.
Et désormais, les syndicats des agents pénitentiaires appellent à une journée prison morte. On retrouve tout de suite Lucille Pascanet en direct de Caen pour RMC. C'est là que travaillaient les deux agents tués et leurs trois collègues blessés. Lucille, sur place, la mobilisation a déjà commencé.
Oui, cela fait une heure que les agents de la pénitentiaire s'activent derrière et devant les grilles de la prison de Caen. À l'intérieur, des palettes ont été empilées pour bloquer l'entrée de l'établissement pénitentiaire. Plusieurs dizaines d'agents sont alignés en silence devant la porte. Les visages sont fermés. Sur le portail, des drapeaux, des bannières aux couleurs des syndicats du secteur. Une mobilisation donc sans précédent ici à Caen. Ce matin, l'activité de la prison sera réduite au minimum. Le service des repas des détenus sera assuré. Les déplacements vers la cour de promenade aussi. Mais pour le reste, pas d'activité, pas de transfert ni de parloir aujourd'hui à Caen. Cette opération prison morte des agents pénitentiaires a un double objectif. Se recueillir d'abord, rendre hommage à leurs collègues attaqués, décédés hier et faire entendre au gouvernement leurs revendications. Réduire drastiquement les extractions de détenus par exemple.
Lucille Pascanet, envoyée spéciale d'RMC à Caen. Une minute de silence sera observée à 11h ce matin dans les prisons, les tribunaux et au ministère de la Justice où Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, recevra les syndicats cet après-midi. Il est 7h05 sur RMC. C'est l'information de la nuit. Une personne a été tuée par balle à Nouméa en Nouvelle-Calédonie après une nouvelle nuit d'émeute malgré le couvre-feu mis en place. Selon le représentant de l'État, il ne s'agit pas d'un tir des forces de l'ordre mais bien d'un tir de quelqu'un qui a certainement voulu se défendre. De nombreux commerces, mais aussi des logements et des bâtiments publics ont été incendiés. Des émeutes qui ont fait une soixantaine de blessés chez les forces de l'ordre. Plus de 130 personnes ont été interpellées et le couvre-feu va être reconduit la nuit prochaine. Car la perspective d'un retour au calme s'éloigne un peu plus avec l'adoption cette nuit à l'Assemblée du texte qui a mis le feu aux poudres. Le projet de loi de révision constitutionnelle qui prévoit de réformer le corps électoral dans l'archipel. Projet de loi adopté, mais dans une ambiance très tendue, Cyprien Pézril.
Faire adopter le texte au plus vite malgré les oppositions et tensions en Nouvelle-Calédonie.
Vous voulez quoi ? La paix ? Vous voulez la guerre ?
L'insoumis Jean-Philippe Nilor dénonce une précipitation du gouvernement qui veut selon lui réduire le poids électoral des indépendantistes.
Ce n'est pas le couteau sous la gorge que les Kanaks vont accepter quoi que ce soit. Vous êtes arc-bouté dans votre posture coloniale.
La France insoumise enchaîne les prises de parole. Mathilde Panot accuse l'exécutif de jouer avec le feu en permettant ce vote.
Il y a un habitant sur quatre en Nouvelle-Calédonie qui possède une arme à feu. Nous vous avons dit maintes fois que la paix était fragile. Maintenant, vous assumerez les conséquences de vos actes.
Réponse de Gérald Darmanin, c'est la gauche, selon lui, qui encourage l'insurrection.
Vous n'avez pas un mot pour le condamner, pas un mot pour les forces de l'ordre. Arrêtez les caricatures, vous n'êtes pas dans un meeting de Mélenchon.
Le texte largement adopté doit maintenant être voté par le Congrès. Mais avant cela, l'heure est encore au dialogue, estime le député Renaissance de Nouvelle-Calédonie, Nicolas Metzdorf.
La première chose qu'on va faire, c'est prendre contact avec les leaders indépendantistes pour essayer de trouver une solution.
Et faute d'accord, Emmanuel Macron prévient, il convoquera le Congrès rapidement, avant la fin juin.
Une enquête ouverte après la découverte de nombreux tags hier dans le 4e arrondissement de Paris et notamment sur le mur des Justes du mémorial de la Shoah. Des mains rouges peintes sur les noms des 4000 Français qui ont sauvé des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors forcément, Ameline Lafchin, l'indignation était vive hier soir lors du rassemblement contre l'antisémitisme organisé dans le quartier.
Les larmes aux yeux, Anne observe le mur des Justes avec beaucoup d'émotion.
Là, il y a le nom de Mélina et René Boulan qui ont sauvé mon papa. Quand il était petit, pendant la guerre, il avait 2 ans et demi.
Alors, en découvrant ce mémorial vandalisé, Anne était bouleversée. D'autant plus à cette date, le 14 mai, jour de la commémoration de la rafle du billet vert.
C'est la date à laquelle mon grand-père a été raflé et il n'est jamais revenu d'Auschwitz.
Hier, plusieurs dizaines de mains rouges sang ont été découvertes sur le mur, mais aussi un peu partout dans le Marais, un quartier qui, pour Nathalie, n'a pas été choisi au hasard.
C'est le quartier juif historique. Il n'y a pas une personne qui n'a pas son souvenir d'enfance dans ce quartier.
Et au-delà de la symbolique du quartier, il y a aussi celle de cette main rouge qui, pour Sarah Eisenman, présidente du collectif Nous Vivrons à l'initiative de ce rassemblement, fait référence à l'assassinat de 2 soldats israéliens en octobre 2000.
On ne pourra plus dire que ceux qui attisent l'haine ne connaissaient pas la symbolique de ces mains rouges qui correspondent au massacre d'un Palestinien sur 2 soldats israéliens qui s'en est vanté à la fenêtre en brandissant ses mains rouges. C'est un appel à la haine des Juifs.
Hier soir, la mairie de Paris indiquait qu'une plainte serait déposée pour chaque endroit où ces tags ont été retrouvés.
Il y a du foot ce soir, rattrapage de la 32e journée de Ligue 1. Le PSG se déplace à 21h sur la pelouse de l'OGC Nice. Même horaire pour l'OM qui doit absolument gagner à Reims ce soir pour doubler Lens et accrocher la 6e place, synonyme de Coupe d'Europe. Des matchs à suivre évidemment en direct et en intégralité sur RMC.
C'était le journal d'Élise dans Jean-Élise, 7h08 sur RMC.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Vous restez bien avec nous, vous serez bien sûr les premiers informés dès qu'il y a du nouveau dans la traque de Mohamed Amra. On suit tout cela pour vous. Mais on va aussi parler du recul des services publics. Plusieurs milliers d'habitants d'un quartier de Saint-Herblain près de Nantes sont privés de bureaux de poste. S'il avait été incendié pendant les émeutes, la poste a annoncé tout simplement qu'il ne rouvrirait pas. Le maire de la commune est en direct sur RMC dans un instant.
RMC, 6h39h.
Apolline Matin.
En ce moment, chez Conforama, tout le monde gagne.
Avec la télé connectée Samsung 163 cm UHD QLED à 849,99€ au lieu de 899,99€.
Un bon plan à ne pas rater. Conforama, jusqu'au 3 juin, voire conditions sur Conforama.fr.
Il était une fois, un brave papa voulant plus que jamais faire plaisir à ses petits. Course faisant, il choisit des fraises Origine France à 2,69€ la barquette de 500 grammes chez Aldi et leur prépara une tarte aux fraises qui eut un franc succès. D'ailleurs, si jamais il en reste une petite part, moi je suis pour. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. En ce moment chez Aldi, 5,38€ le kilo, offre valable jusqu'au samedi 18 mai, info sur aldi.fr.
Lorsqu'Hélène ouvrit son colis Amazon, elle eut des papillons dans le ventre. Ce double compartiment, ces 8 modes de cuisson, c'était la frite sans huile de ses rêves. À un prix si bas qu'elle ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des produits très bien notés à des prix que vous allez adorer. Découvrez nos offres dès maintenant sur Amazon. Faire les voyages dont on a toujours rêvé une fois à la retraite. Oui, ça arrive. Acheter la maison de ses rêves au Pays Basque et s'y installer. Oui, ça arrive.
Mon seul critère, c'était vue sur mer.
Oui, ça aussi, ça arrive. Parce que tout arrive dans la vie avec AG2R, la mondiale. Constituez dès maintenant une épargne retraite pour préparer une retraite pleine de possibilités. Et comme 15 millions de personnes qui nous font confiance, devenez acteurs de votre avenir. Rendez-vous avec nos conseillers ou sur ag2rlamondiale.fr. AG2R, la mondiale. Prendre la main sur demain. Message à caractère publicitaire, tout investissement comporte des risques, y compris le risque de perdre ton capital.
Alors moi, aux réunions de famille, pour prendre la photo parfaite, c'est l'enfer. Genre, bougez plus, ouvrez les yeux. Mais grâce au Samsung Galaxy S24, avec l'intelligence artificielle qui fait des retouches photos en direct, là c'est... Elle est parfaite, on a réussi.
En ce moment chez SFR, l'IA est à l'honneur avec jusqu'à 220€ de remise sur une sélection de smartphones 5G Samsung, comme le Galaxy S24. Rendez-vous en magasin. SFR, soyez-vous.
Offre soumise à condition avec un forfait 5G éligible, engagement 24 mois jusqu'au 19 mai. 5G sous réserve de couverture.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h11, vous êtes bien sur RMC.
Le témoin RMC.
Et vous le savez, on en parle très souvent, la question du recul des services publics. Eh bien, une étape a à nouveau été franchie. Le témoin du jour est en direct depuis la Loire-Atlantique. C'est vous, Bertrand Affilé, bonjour. Vous êtes le maire de Saint-Herblain. C'est une commune à côté de Nantes, une commune où plusieurs milliers d'habitants d'un quartier sont désormais privé de bureau de poste. Alors, le bureau de poste avait été incendié au moment des émeutes de l'été dernier, sauf qu'il n'a pas rouvert depuis, et on apprend qu'il ne rouvrira pas du tout. Que vous dit la Poste, monsieur le maire ?
La Poste nous dit très simplement que la fréquentation du bureau de poste a diminué et que du coup, ça ne semble plus pertinent pour la Poste. De maintenir ce bureau de poste ouvert pour ce quartier qui représente environ 10 000 habitants dans une petite ville.
10 000 habitants, on entendait d'ailleurs l'une de vos administrées qui disait tout à l'heure au micro d'un de nos reporters que pour aller à l'autre bureau de vote qui restait, il fallait prendre 15 minutes de bus pour pouvoir s'y rendre. Donc ça n'a effectivement plus rien à voir avec un service public de proximité. Est-ce que vous avez été consulté au moins par la Poste ou est-ce que simplement vous avez été mis devant le fait accompli, monsieur le maire ?
Bien, c'est-à-dire que la Poste ne nous donnant pas de nouvelles après l'incendie du bureau de poste, je leur ai écrit, donc au mois de septembre, j'ai laissé à peu près 2 mois s'écouler pour qu'ils puissent nous donner des nouvelles. Et c'est à ce moment-là, 2 mois après, qu'ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas l'intention de réouvrir le bureau. Bureau pour lequel ils avaient d'ailleurs fait de gros investissements puisque l'intégralité de la toiture avait été refaite quelques mois avant l'incendie.
Alors on comprend bien effectivement le coût financier hein, de retaper ce bâtiment. Enfin, ce que je trouve d'ailleurs étonnant, monsieur le maire, c'est que s'ils avaient réinvesti dans la toiture il y a seulement quelques mois, ça veut dire qu'à l'époque, en tout cas, ils estimaient que ce bureau de vote était nécessaire. Je crois même que c'était le bureau central des postes alentour.
Oui, tout à fait, c'est le bureau central de Saint-Herblain, avec toute la poste pour les entreprises, hein, tous les services postaux pour les entreprises. Et effectivement, je suis d'accord avec vous, c'est très surprenant que de refaire complètement à neuf toute la couverture, mais aussi des baies vitrées et tout un ensemble d'éléments de bâtiment. Et puis, de nous dire quelques mois après, on va fermer parce que ce n'est pas utile de garder ce
Vous soupçonnez même, monsieur le maire, qu'au fond, la Poste veut récupérer de l'argent avec un projet immobilier, parce que la Poste était propriétaire du site, c'est-à-dire à la fois de la maison, mais du terrain.
Oui, alors c'est pas simplement une maison. C'est vraiment un complexe, un petit complexe avec un grand terrain qui fait plusieurs milliers de mètres carrés. Oui. Et c'est effectivement juste à côté d'une ligne de tramway. Donc on comprend bien l'intérêt de pouvoir réaliser un projet immobilier et d'avoir une recette foncière en plus de remboursement des assurances.
Et ça, vous qui êtes quand même le maire, vous n'avez pas de moyens de levier contre ça. Ils ne vous entendent pas.
Alors, il faut savoir que toutes les questions de construction se font dans le cadre du plan local d'urbanisme.
Oui.
Et le plan local d'urbanisme prévoyait une possibilité de mutation de ce site, effectivement. Pourquoi ? Parce que depuis qu'il a été construit il y a une quarantaine d'années, tout autour, il y a eu beaucoup d'habitat qui s'est développé. Mmh. Et évidemment, avoir la poste entreprise avec les premiers qui arrive à 5h30 du matin, ça posait quelques problèmes parfois de bruit. Mmh. Donc, on avait envisagé tranquillement une relocalisation, mais dans un horizon beaucoup plus lointain. Mmh. Et du coup, on aurait pu travailler en partenariat, en discussion, en négociation avec la poste.
Alors là, vous êtes mis devant le fait accompli.
On est mis devant le fait accompli et de toute façon, le projet qui pourrait avoir lieu n'empêche pas l'implantation d'un bureau de poste en pied d'immeuble. Moi, j'y suis plutôt favorable. Mmh. Et si effectivement la poste peut faire son projet immobilier, mais réserver une place pour un bureau de poste en pied d'immeuble, il n'y a aucun problème. C'est ce que demandent les habitants.
Mais même cette discussion-là.
Une agence bancaire.
Voilà, mais même cette discussion-là, vous ne l'avez pas pour l'instant. Vous appelez, me semble-t-il, monsieur le maire, à une manifestation ce soir et vous avez également lancé une pétition. Vous pouvez nous en dire plus ?
Alors la pétition, ce sont les habitants eux-mêmes qui l'ont lancée. Pétition en ligne et pétition en faisant signer en porte-à-porte.
D'accord.
Je crois qu'ils ont un peu plus de 2000 signatures aujourd'hui, donc c'est d'être négligeable. Et effectivement, nous avec le collectif d'habitants, avec les organisations syndicales de la Poste qui sont attachées à la défense de l'emploi, nous organisons à 18h ce soir une manifestation commune devant le bureau de poste, donc 11 rue Pablo Neruda à Saint-Herblain, et tous ceux qui veulent se joindre à nous seront les bienvenus pour défendre les services publics de proximité.
Et l'appel est donc lancé. Merci Bertrand Affilé, maire de Saint-Herblain près de Nantes, d'avoir témoigné ce matin, et on pense aussi à tous vos habitants. Il est 7h16.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Restez bien avec nous. Dans 20 minutes, on vous donnera toutes les dernières informations sur l'évasion sanglante de Mohamed Amra hier et de la traque toujours en cours pour le retrouver. Une attaque qui soulève de nombreuses questions. On sera en direct avec un responsable syndical de l'administration pénitentiaire en deuil et en colère après la mort de deux de ses collègues. Vous n'hésitez pas d'ailleurs, comme Didier que vous avez entendu tout à l'heure, vous nous appelez au 3216. Avant cela, le 7h20 d'Apolline Matin avec du sourire, l'actu écho du jour et l'enquête d'Amélie Rosic sur la qualité de l'eau du robinet. Vous allez le voir, c'est pas toujours très propre.
Apolline Matin.
Les indiscrets RMC.
On fait une parenthèse pour aller dans les coulisses de l'Assemblée nationale avec Sébastien Krebs. Bonjour Sébastien.
Bonjour Apolline.
Sébastien, les députés doivent approuver ou non tout à l'heure la création d'un groupe d'amitié France-Palestine. Et puis la question divise.
Oui, parce qu'il existe bien un groupe France-Palestine. Il a été relancé à l'automne dernier, RMC vous l'avait révélé, mais il n'a pas l'appellation groupe d'amitié, comme c'est le cas pour de nombreux pays, et notamment France-Israël. Aujourd'hui, c'est un groupe d'études, parce que la Palestine n'est pas un État. Le changement de nom serait donc plus symbolique qu'autre chose, mais c'est une volonté assumée par le député Modem Richard Ramos, qui le préside depuis quelques mois. Les centristes y voient une façon de baliser le chemin vers une solution à deux États qu'ils ont toujours défendu. La gauche applaudit, la droite et le RN s'y opposent. Tout va donc se jouer au sein même de la majorité et la question divise. Les critères ne sont pas remplis, rétorque un député Renaissance. Traditionnellement, il en faut trois. Un parlement, alors il y a bien un conseil législatif palestinien, même s'il ne siège plus depuis des années, des relations diplomatiques avec la France, et puis il faut un État reconnu par l'ONU. Là, ça n'est pas le cas, mais ça n'est pas le cas non plus du Québec, une région qui a pourtant bien son groupe d'amitié. Bref, la décision est surtout politique. Certains députés voulant envoyer un signal, d'autres craignant de jeter de l'huile sur le feu. On ne fait pas de la diplomatie à la place des diplomates, balaye un élu Renaissance, quand l'une de ses collègues estime que cela peut être utile de faire émerger des interlocuteurs en Palestine. C'est le bureau de l'Assemblée qui va se prononcer tout à l'heure autour de Yael Braun-Pivet qui, elle, ne devrait pas prendre part au vote.
RMC, Apolline Matin. Si vous aimez les déjeuners animés, invitez-vous tous les jours à la table d'Estelle Denis dès midi sur RMC. On vous garde une place entre Fred Hermel, Perry Collégas, Emmanuel Dancourt, Daniel Riolo, et Vincent Cerroussi qui vient nous faire rire à 14h45. RMC, Estelle Midi, midi 15h.
Vous saviez que Toyota est la marque la plus fiable du marché ? Toyota a confiance en ses véhicules et vous propose un programme inédit. Avec Toyota Relax, à chaque entretien de votre Toyota dans le réseau agréé et jusqu'à ses 10 ans, vous bénéficiez d'une nouvelle garantie additionnelle. Et ce, même si votre voiture est d'occasion. Avec Toyota Relax, il y a vraiment de quoi être détendu. Voir conditions sur toyota.fr.
Dans moins d'une minute sur RMC,
le 7h20 d'Apolline Matin.
Oh, mon imprimante bureau Valet. Tu m'aides à porter ce carton ? peux pas.
Bah, dommage, c'est ma nouvelle imprimante Canon.
Attends, j'arrive.
Oh bah trop tard.
Chez Bureau Vallée, jusqu'au 25 mai, l'imprimante multifonction jet d'encre Canon Maxify MB2150, impression jusqu'à 19 pages par minute, écran tactile de 6,2 cm, chargeur automatique 50 feuilles, est à 84,90€ au lieu de 119,90€.
Bureau Vallée, on met la barre très haut et les prix très bas.
Offre dans la limite des stocks disponibles. Conditions et magasins participants sur bureau-vallée.fr.
RMC, Apolline Matin, le 7h20.
Apolline de Malherbe.
Et c'est l'heure du 7h20 d'Apolline Matin avec autour de la table Amélie Rozic, Manu Le Chypre, Arnaud Demange. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Amélie, ce matin, vous dévoilez une enquête sur la contamination de l'eau potable dans les petites communes de France.
Oui, on part à Bonnefond, c'est en Corrèze, un petit village de 125 habitants. L'un d'entre eux nous a écrit parce qu'une partie de sa famille est tombée malade en buvant l'eau du robinet, contaminée par la bactérie E. coli, Escherichia coli. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive, Apolline.
Sur place, la question est très sensible.
Oui, à tel point que notre lanceur d'alerte a refusé de prendre la parole lors d'une interview enregistrée. Hors micro quand même, des habitants ont raconté à Solène Leroux qui s'est rendue sur place avoir souffert de violents maux de ventre pendant des jours, des symptômes gastro-intestinaux. Un couple a acheté un système filtrant individuel depuis. Une dame âgée ne boit plus que de l'eau en bouteille. Ils nous ont demandé d'enquêter pour trouver la source de ces contaminations.
Et qu'est-ce qui se passe dans ce village ?
La zone est agricole. Il y a notamment un élevage porcin et les contaminations aux bactéries peuvent provenir de ce type d'activité parce que c'est une bactérie qui est notamment à l'intérieur de l'intestin des mammifères. La préfecture de la Corrèze nous confirme que plusieurs villages sont concernés par ces contaminations d'eau potable de manière régulière dans ce département rural constitué de communes isolées. Et en remontant jusqu'au ministère de la Santé, nous avons découvert que le phénomène de contamination concerne en fait 10% des communes de moins de 500 habitants en France. Alors pourquoi ? Parce que leur réseau d'eau est petit, souvent géré en direct par la mairie. Il peut être vieux, vétuste et donc vulnérable aux contaminations à la fois bactériologiques et chimiques.
Est-ce qu'il y a bien des contrôles quand même, non ?
Bien sûr, en France, l'eau potable est régulièrement analysée par les autorités, heureusement. C'est comme ça d'ailleurs qu'à Bonnefond, le 5 mars dernier, 32 bactéries ont été découvertes. Depuis cet épisode, l'eau a bien été traitée au chlore, mais, je cite, il y a eu une erreur de dosage, nous a avoué le maire que nous avons eu au téléphone. Trop de produits et une eau qui sent fort et qui n'inspire pas confiance, nous ont raconté les habitants. Seule certitude, la mairie n'a pas les moyens de moderniser son réseau vétuste qu'elle gère en direct, hein, parce qu'il faudra un investissement de 30 à 80 000 euros pour une commune de 125 habitants.
Quelles sont les solutions ?
Eh bien, au 1er janvier 2026, de toute façon, tous les petits réseaux d'eau qui sont gérés comme ça en direct par les mairies vont passer sous bannière communauté de communes, c'est-à-dire transférées, et donc mécaniquement, elles ont plus de moyens pour investir.
Mise en commun des moyens.
Exactement. Et puis d'ici là, sachez, pour tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, que vous pouvez vérifier vous-même la qualité de l'eau qui sort de votre robinet sur le site eaupotable.santé.gouv.fr. Vous trouverez tous les résultats des contrôles sanitaires disponibles commune par commune.
Vous avez vérifié pour cette commune-là ?
Absolument. Aujourd'hui, l'eau est clean. Il n'y a aucun souci du robinet. Simplement, les habitants ont peur. Et donc, je comprends qu'il y a une perte de confiance. Et c'est pour ça qu'ils ont pris des mesures.
Merci, Amélie. L'actu éco à 7h22. Manu, une concertation débute aujourd'hui entre le gouvernement, le syndicat et les associations de familles pour discuter des contours du futur congé de naissance.
Oui, ce congé de naissance, il sera lancé en août 2025. Il pourra être pris à la fois par le père et par la mère pour une durée de 3 mois chacun. Donc, vous pouvez faire 3 mois plus 3 mois, ça fait 6 mois. Voilà, ce sera indemnisé à hauteur de 50% du salaire sans dépasser un plafond de 1900 euros et il pourra se cumuler avec le congé maternité et le congé paternité qui, eux, restent inchangés. L'objectif, c'est d'instaurer un congé plus court, mais mieux rémunéré que l'actuel congé parental qu'il est amené à remplacer. Congé parental qu'il était possible de prolonger jusqu'à 3 ans, mais qui n'était rémunéré que 400 euros par mois au mieux. Et là, en plus, il y aura la possibilité pour l'employeur de rajouter au pot.
Ah, de rajouter. Donc, ouais. Les 1900, c'est l'État.
Absolument.
Éventuellement, vous rajoutez. Quel sera l'impact économique de ce changement ?
Alors, l'ancien congé parental, il éloignait du monde du travail, hein, parce que quand vous prenez 1 an, 2 ans, 3 ans, il y avait une bonne partie gens qui le prenaient, qui ne revenaient pas sur le marché du travail. Et c'était surtout des femmes, puisqu'il y a 15% des femmes qui prenaient un congé parental, 1% seulement des hommes seulement. Ça compliquait la vie des entreprises qui se retrouvaient à devoir remplacer un salarié toujours dans les effectifs théoriquement, mais pas sur le terrain. Et puis, ça appauvrissait les parents qui décidaient de le prendre. Ce qui fait que c'était finalement assez, assez discriminant sur le plan social, parce qu'en fait, ne le prenaient que les familles qui avaient les moyens de supporter cette baisse de revenus, soit parce qu'un des deux conjoints gagnait bien sa vie. Donc, ça n'était réservé qu'aux catégories sociales un peu favorisées. Et donc là, l'idée, c'est de corriger ça. Alors, il y a un rapport parlementaire qui demandait plus, hein, évidemment, qui demandait un an rémunéré à 67% du revenu, mais ça coûtait trop cher. On peut quand même dire que ça va dans
six
le
mois,
bon
c'est...
sens.
Six mois, c'est pas mal. Ouais. Si chacun.
Et ça va. Et les expériences qui sont allées dans ce sens-là, dans d'autres pays, montrent que ça a quand même eu un effet un petit peu positif. Ça a eu un petit impact sur la natalité.
Arnaud, mon invité ce matin dans le face-à-face, c'est Éric Zemmour, le président du parti Reconquête.
Oui, enfin, ça va nous faire du bien, un invité feel good. La météo est pas dingue, les infos sont déprimantes, mais heureusement, Éric Ladéconne va nous redonner un peu le sourire, hein. Tricole rigolo. Ah, voilà, tant de légèreté. Alors, pas de bol, ça va pas fort non plus chez Éric Zemmour. Sa liste n'arrive pas à séduire les électeurs. Et en même temps, là, le discours vire au burlesque. L'autre jour, il y a Jean Messia, qui est sur la liste Reconquête, qui a carrément comparé l'immigration à, je cite, « importer des millions de chameliers polygames du 8e siècle » avec, je cite toujours Jean Messia, « Mokhtar Ben Koutskous ». Donc, évidemment, là, à côté de ça, Jordan Bardella, on dirait le fils de Yannick Noah et Christiane Taubira, quoi. Ça vire au tragique. Vraiment, c'est ridicule. On dirait une parodie de Jean-Marie Le Pen dans Le Bébé de Chaud. Le chamelier, n'est-ce pas?
Appelez-moi Dieu, tu dis n'importe quoi.
Le couscous, n'est-ce pas? Écoutez, ta gueule, c'est n'importe quoi. Alors, on se souvient tous de l'attaque contre Éric Zemmour la semaine dernière. Enfin, l'attaque, l'attentat. Une femme lui a jeté un œuf. Et lui et Sarah Knafo avaient déclaré qu'il ne voulait pas vivre dans un pays où on ne peut se défendre que quand on est mort. Éric Zemmour peut mourir si on lui jette un œuf. Donc, Apolline, si jamais il devient agressif pendant l'interview, je vous ai amené une boîte de 6, elle est en régie.
D'accord.
Et si jamais il est trop agité, vous la secouez un peu devant lui, comme ça, ça le calme. Alors, la dernière sortie politique d'Éric Zemmour, vous savez ce que c'était?
Non.
C'était il y a deux jours, il était à la foire à la fraise de Sainte-Bazeille. Et Éric Zemmour a côtoyé, d'après la presse, le cortège coloré et festif d'une immense tarte à la fraise. Et il a rencontré, c'est véridique, la confrérie de la tarte géante. Il est prévoyant, hein. Comme il va s'en manger une aux européennes de tarte géante, eh ben, il a voulu avoir l'avis des spécialistes. Donc, rendez-vous avec Éric Zemmour à 8h30. Et on parlera de tarte géante.
Tout à fait, c'était justement prévu. Ce que je voulais lui demander. Il est 7h27, on se retrouve dans un instant pour la météo et le journal. Et rendez-vous est pris aussi avec Arnaud Demange tout à l'heure à 8h20.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
À venir sur RMC.
Ce soir, football, deux matchs en retard de Ligue 1. Nice-PSG et Reims-Marseille. Demain, spécial Euro 2024 entre 20h et minuit, Didier Deschamps annonce la liste des joueurs sélectionnés pour l'Euro de foot. Et jusqu'à vendredi, jouez pour faire tourner la roue RMC et gagner jusqu'à 20 000 euros.
Ne ratez rien sur RMC, bien plus qu'une radio. AXA, premier assureur des pros.
Salut Paul, tu vas bien?
Oui, ça va, et toi Julia?
C'était sympa de se croiser à la fête de l'école.
Ah oui, le spectacle des petits était top. Bah écoute, comme je te disais samedi, en ce moment j'arrête pas. Je suis en plein aménagement de mon nouvel atelier et en plus j'y installe de nouvelles machines.
Justement, je t'appelle parce que j'y ai repensé et j'ai trouvé la solution pour protéger ton atelier et aussi ton installation.
Chez AXA, si nos conseillers sont si proches de leurs clients pros, c'est parce qu'ils les accompagnent en moyenne plus de 10 ans. AXA, étude pépite CSA 2022.
Grand frais.
Oui, c'est le tailleur. Pour votre costume, je peux pas. J'ai grand frais. Ils ont de savoureuses cuisses de poulet farcies au chorizo. En même temps, une veste sans manches pour une cérémonie en juin, ça passe crème, non?
Chez Grand Frais, jusqu'à samedi, les cuisses de poulet au chorizo sont à 12,90€ le kilo. Régalez-vous, faites vos courses.
Grand Frais!
Le meilleur marché.
Préparé sur place, volaille 100% française à retrouver toute l'année chez votre boucher. À rôtir, selon stock disponible, magasin participant sur grandfrais.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. On peut penser qu'après l'expiration de sa garantie constructeur, il ne reste plus qu'à croiser les doigts, en espérant que tout ira bien. Ou on peut choisir l'offre Dacia Zen. Avec Dacia Zen, bénéficiez d'un an de garantie supplémentaire en effectuant votre entretien avec un forfait Dacia Essentiel, dans l'un de nos 4000 ateliers Dacia Service. Valable pour les véhicules de moins de 73 mois et 120 000 km. Prise de rendez-vous et conditions sur Dacia.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Il est presque 7h30 et c'est le retour des orages, Géraldine.
Les orages, eh bien oui, sont encore bien présents pour aujourd'hui. Ce sera le cas jusqu'à la fin de la semaine d'ailleurs. Pour aujourd'hui, on a la pluie qui s'évacue par l'est, les averses orageuses qui arrivent par l'ouest. Et donc, ces averses orageuses qui vont concerner quasiment tout le pays, avec des orages qui seront localement forts dans l'intérieur de la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les températures en baisse ce matin. Cet après-midi, on sera un petit peu en dessous des normales de saison, 16 à 21 degrés sur la plupart des régions, 22 à 24 degrés pour la Corse.
La météo sur RMC avec BNP Paribas. Avec Tap to Pay sur iPhone et Accepta BNP Paribas, acceptez les paiements sans contact. Il suffit d'un iPhone.
7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Une personne tuée par balle cette nuit en Nouvelle-Calédonie. Premier bilan des violences qui secouent l'archipel depuis lundi en opposition à la réforme constitutionnelle votée hier à l'Assemblée nationale. Un détenu évadé, ses quatre complices toujours en cavale. Ce matin, la traque se poursuit au lendemain de l'attaque d'un fourgon pénitentiaire qui a fait 2 morts et 3 blessés dans l'heure. Et puis 9 milliards d'euros, c'est le montant estimé des retombées économiques pour les Jeux de Paris 2024 pour la région Île-de-France.
Une personne tuée par balle à Nouméa.
Première victime des émeutes qui embrasent la Nouvelle-Calédonie depuis lundi. Il s'agit probablement d'un émeutier victime d'un tir ne provenant pas des forces de l'ordre, mais d'une personne qui a certainement voulu se défendre, explique le représentant de l'État sur place. Louis Lefrance parle même d'une situation insurrectionnelle. Au moins 140 personnes ont été interpellées la nuit dernière. Les autorités font état de nombreux incendies, de pillages, de commerces, d'écoles et de collèges, des établissements qui seront fermés jusqu'à nouvel ordre. Sur place, Romain Poiseau, les habitants sont sous le choc, ils parlent d'une nuit d'enfer.
Armés de barres de fer, parfois d'armes à feu, Cyril et une 60aine d'habitants ont veillé toute la nuit pour défendre leur quartier.
Ils ont menacé les gens pour les faire sortir des maisons, pour brûler les maisons. Donc c'est pour ça qu'on s'organise. On arrive à les tenir à l'écart. Mais bon, après c'est des jeunes, c'est des gamins, ils ne savent même pas pourquoi ils sont là, ils sont complètement bourrés. Mais bon, là, ils ont détruit la ville, quoi. Ils ont tout détruit. Hein.
Cette nuit, Cyril a vu ses 2 entreprises de pièces détachées automobiles brûlées.
Moi, j'ai 35 salariés donc, qui sont sur le carreau, ils m'ont appelé ce matin. 600 ou 700 gendarmes, ça ne suffit pas, ils ne peuvent pas être de partout. Donc, ils ont abandonné certains quartiers où il y a des entreprises, donc elles brûlent les unes derrière les autres.
Les zones industrielles ont brûlé, les pharmacies aussi, mais pas seulement.
Tous les commerces, ils ont tout saccagé.
Stéphanie est une habitante de Nouméa.
Cette nuit, ils ont cramé... Le cinéma, une piscine municipale, les murs d'escalade.
Le mari de Stéphanie a lui aussi veillé toute la nuit, armé d'un fusil de chasse pour défendre sa maison.
Jamais j'aurais pensé voir mon mari prendre les armes, moi aller chercher des cailloux dans mon jardin pour me défendre ma maison et ma fille. C'est une nuit en enfer.
Plus de 130 personnes ont été interpellées cette nuit et une 60aine de membres des forces de l'ordre ont été blessés.
Et le parti indépendantiste a lancé un appel au calme malgré son opposition au vote par l'Assemblée nationale hier de la révision constitutionnelle du corps électoral dans l'archipel. Le texte devra désormais être acté par le Congrès peut-être avant la fin du mois de juin en vue de son adoption définitive, expliquait hier Emmanuel Macron. Un détenu évadé, ses complices toujours en cavale. Ce matin, la traque se poursuit dans l'heure pour tenter de retrouver les membres du commando qui ont aidé ce détenu à s'évader. 4 hommes lourdement armés qui ont bloqué un fourgon pénitentiaire sur la 13, tuant 2 agents. 3 autres sont blessés. Le pronostic vital de l'un d'eux est engagé. Un temps déclenché, le plan épervier a été levé dans la soirée. Pour autant, Julie Brault, d'importants moyens restent mobilisés dans cette chasse à l'homme.
Oui, une traque dirigée par les enquêteurs de la police judiciaire qui coordonne désormais l'enquête et les recherches avec un objectif majeur, déterminer où pourraient se retrancher les 5 fugitifs. Toutes leurs connexions vont alors être identifiées et surveillées, leur entourage familial et amical par exemple, qui pourrait être mis sur écoute. Et puis, les enquêteurs vont aussi analyser un faisceau de renseignements beaucoup plus large à la recherche du moindre indice. Christophe Miette est le secrétaire régional adjoint du syndicat des cadres de la sécurité intérieure.
Bien souvent, c'est le cas dans ces affaires de grand banditisme. D'autres voyous qui sont sur écoute sur d'autres dossiers parlent aussi. Ça permet d'apporter des éléments à cette enquête. Donc il va y avoir un faisceau d'éléments qui vont se regrouper pour permettre l'interpellation de ces individus. Au long terme, ils vont commettre des erreurs et ils seront retrouvés.
Sur le terrain, les gendarmes locaux et le GIGN restent en alerte. 60 gendarmes mobiles patrouillent notamment dans certains quartiers sensibles d'Evreux. Les 2 voitures utilisées par le détenu et ses complices sont elles aussi passées au crible par les enquêteurs.
L'émotion est très vive dans les rangs des agents pénitentiaires qui appellent à bloquer les prisons. Aujourd'hui, les syndicats de la profession seront d'ailleurs reçus par le garde des Sceaux dans l'après-midi, Éric Dupond-Moretti, qui a rencontré les proches des victimes hier à Caen. Une minute de silence en leur hommage a été respectée à l'Assemblée nationale hier, où les députés de l'opposition ont pris à partie le gouvernement, Hélène Derzian.
Il pointe l'impuissance de l'État. C'est pour Nicolas Dupont-Aignan le responsable du drame.
Si on ne change pas de politique rapidement,
ces scènes de guerre se multiplieront dans notre pays.
Le patron de Debout la France appelle à mieux accompagner les agents pénitentiaires lors de transferts de détenus.
On peut s'interroger sur la faiblesse des protections pour le déplacement d'un délinquant aussi dangereux. L'administration pénitentiaire est dans notre pays abandonnée depuis tant d'années.
Mieux protéger les agents en première ligne, c'est aussi ce que dit le député du RN, Kevin Mauvieux. L'élu de Normandie s'inquiète de voir de telles scènes sur son territoire.
Il y a une certaine colère de voir que cet ensauvagement gagne, grossit et s'organise. Dans un département, le département de l'Eure, qui n'est pas connu pour des faits de délinquance ou de grand banditisme plus importants que dans certaines autres zones françaises.
Avec en plus un détenu qui serait lié au trafic de drogue, il y a urgence à éradiquer ce fléau, insiste le leader des communistes, Fabien Roussel.
Sévérité des peines, moyens de police, d'enquête, lutte contre le blanchiment d'argent, contre les paradis fiscaux où ils planquent leur pognon, c'est tout ça qu'il faut mettre en œuvre.
Et aller plus loin, dit-il, que les opérations place nette du gouvernement.
Et Emmanuel Macron se dit choqué, il déclare sa volonté de retrouver les auteurs de ce crime. Nous serons intraitables, conclut le chef de l'État sur les réseaux sociaux. RMC, il est 7h35, une palme d'or d'honneur pour Meryl Streep hier en ouverture du 77e Festival de Cannes. Avant la diffusion aujourd'hui du film de Judith Godrèche, moi aussi, un court-métrage de 17 minutes regroupant 1 000 000 de témoignages anonymes de femmes victimes de violences sexuelles. Entre 3 et 5 milliards d'euros, c'est la facture estimée des Jeux de Paris par la Cour des comptes en mars dernier. Un événement coûteux et pourtant rentable, Maria Azé, selon le Centre de droit et d'économie du sport, le retour sur investissement pourrait rapporter gros à l'économie française.
9 milliards d'euros, c'est la somme que devraient générer les Jeux de Paris 2024, un chiffre légèrement supérieur à ce qui avait été annoncé en 2016 lorsque Paris était encore candidate. Entre l'emploi, l'hôtellerie, l'organisation, les retombées économiques sont nombreuses, mais le principal facteur de revenus reste le tourisme puisqu'il représente 42% du montant total des retombées. L'étude ne concerne que l'Île-de-France et ne prend pas en compte les épreuves en province ou le relais de la flamme par exemple. Enfin, elle ne se base pas uniquement sur la période de compétition et englobe aussi l'héritage des JO jusqu'en 2035. Bien sûr, ce montant ne représente pas le bénéfice net des Jeux. À ces 9 milliards d'euros, il faudra déduire le coût de l'événement pour en connaître ses recettes.
Et en attendant, la flamme olympique va prendre un peu de hauteur. Aujourd'hui, à plus de 2700 mètres d'altitude, ce matin, départ du pic du Canigou dans les Pyrénées-Orientales avant une arrivée du relais à Perpignan, début de soirée. Et puis du foot, ce soir, 32e journée de Ligue 1, 2 matchs en retard. Nice reçoit le PSG, Reims, Marseille. Coup d'envoi, 21h à vivre sur RMC.
Et puis les courses, c'est à Vincennes.
Et c'est à 13h55 sur RMC Découverte, le 9 est non partant. L'outsider de la Dream Team RMC, c'est donc le 10, Fakir de Mahé.
C'était le journal de Thibaut Texer, il est 7h36.
RMC, 6h39h,
Apolline Matin.
2 morts, 3 blessés graves et un dangereux trafiquant dans la nature. L'évasion sanglante de Mohamed Amra soulève de nombreuses questions. Pourquoi n'avait-il pas été davantage surveillé? Pourquoi le convoi pénitentiaire n'était pas banalisé, blindé? Toutes les dernières informations avec le chef du service police-justice, Guillaume Biet, et puis le secrétaire général du syndicat FO Pénitentiaire qui s'installe dans ce studio, qui nous donnera aussi des nouvelles des blessés. A tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Chez AXA, on propose des solutions adaptées pour les entrepreneurs. Parce qu'on comprend que...
Je suis retoucheur. Et hier, j'ai fait tomber ma nouvelle machine à coudre sur mon pied. Résultat, machine inutilisable. Et pareil pour mon pied.
Chez AXA, on vous propose un pack adapté à vos besoins, incluant une indemnité pour remplacer votre matériel et un complément de revenu en cas d'incapacité de travail à la suite d'un accident. Être à son compte ne devrait jamais être un risque. AXA. Plus d'informations en agence ou sur axa.fr selon clauses et conditions du contrat.
Grand frais.
Ma chérie, voilà, je vais annuler le yoga. Je peux pas. J'ai grand frais. Tu sais, finalement, la chose qui me détend le plus, bah, c'est de me balader au rayon fruits et légumes, me reconnecter aux tomates. Je pourrais faire ça toute la journée. Oh là là.
Chez Grand frais, profitez chaque jour de dizaines de promotions sur les meilleurs produits sélectionnés pour vous. Boucherie artisanale, épicerie d'ici et d'ailleurs, crèmerie, poissonnerie. Et plus de 300 fruits et légumes ultra frais. Régalez-vous, faites vos courses.
Grand frais,
le meilleur marché.
Vous écoutez RMC.
RMC.
Chez Grand frais, nous travaillons en direct avec plus de 1000 producteurs français comme Amandine. Notre productrice salade, elle nous donne toujours rendez-vous à 4h du mat. Mais bon, ces salades sont exceptionnelles.
Alors, t'as réussi à te lever?
Ça pique un peu, Amandine, là.
Chez Grand Frais, nous sommes prêts à tout pour dénicher les bons producteurs et les bons produits pour vous proposer chaque jour plus de 300 fruits et légumes ultra frais. Grand Frais, sélectionneur passionné de producteurs passionnés.
RMC au 32-16, 45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16, 75 centimes par envoi, plus prix du SMS.
Un problème de vitrage sur votre voiture? Vous pensez à Carglass directement? Bien sûr, on s'en occupe. Et avec nous, vous êtes sûr de conserver votre garantie constructeur. Chez Carglass, peu importe l'intervention vitrage ou la marque de votre voiture, votre garantie constructeur, vous la gardez. Et encore mieux, jusqu'au 31 mai, pour toute intervention pare-brise, Carglass vous offre un an d'abonnement à l'appli Coyote en version premium. Et ça, c'est Carglass qui le fait pour vous. Alors prenez rendez-vous sur carglass.fr.
Carglass répare, Carglass remplace.
Conditions sur carglass.fr. N'oubliez pas, .fr.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h40 et vous êtes bien sur RMC.
L'invité du jour.
On va prendre le temps avec deux invités ce matin au fond de comprendre ce qu'il s'est passé et ce qu'il se passe encore. L'attaque hier, la traque aujourd'hui. D'abord avec vous, Emmanuel Baudouin, bonjour. Merci d'être dans ce studio ce matin. Vous êtes le secrétaire général du syndicat FO pénitentiaire et à vos côtés Guillaume Biais. Bonjour cher Guillaume. Guillaume Biais, chef du service police-justice des RMC, qui nous donne dans un instant les toutes dernières informations. Mais je me tourne d'abord vers vous, Emmanuel Baudouin. Merci d'avoir accepté parce que on sait l'émotion que vous ressentez aujourd'hui, vous tous qui travaillez dans la pénitentiaire au lendemain de la mort de deux de vos collègues, donc tués hier lors de l'évasion sanglante de Mohamed Amra. Je voudrais d'abord vous demander si vous avez des nouvelles des trois collègues blessés.
Oui. Alors, l'un d'eux était blessé à l'oreille, est opéré au CHU de Caen pour une opération réparatrice. Le deuxième est sorti hier en fin de journée du bloc opératoire. Sa vie, son pronostic vital n'est plus engagé. Et le troisième, j'ai eu des nouvelles tout à l'heure. Et sa situation, il est sorti aussi du bloc opératoire. Sa situation est stabilisée, mais voilà, il faut être prudent et attendre un peu de voir comment les choses évoluent.
Mais encore inquiétante.
Oui, il faut être prudent.
Guillaume Biais, beaucoup de questions qui se posent. J'aimerais qu'on puisse tenter d'y répondre d'abord avec vous. Ce matin, la traque se poursuit pour retrouver Mohamed Amra et ses complices. On en est où?
Alors la traque, elle est dans une phase d'enquête désormais. On n'est plus du tout sur le quadrillage auquel on a assisté hier avec le plan épervier, l'hélicoptère, le GIGN, 200 gendarmes sur le terrain. Ça n'a pas permis de retrouver les fuyards. Il fallait le faire, mais maintenant on est dans une deuxième phase. C'est une phase plus minutieuse, une phase d'enquête de police judiciaire. Il y a un service qui est très spécialisé, ça s'appelle la Brigade Nationale de Recherche des Fugitifs. Ils ne font quasiment que ce type d'enquête, pas toujours sur ce type de profil, mais voilà, ils cherchent des fugitifs tout au long de l'année. Ils connaissent par cœur ce type d'enquête. C'est une enquête, on analyse les indices, on recherche des témoignages, on interroge. On s'appuie aussi sur la police scientifique. Il y a pas mal d'indices qui ont été relevés hier.
Oui, donc on n'est plus dans une chasse à l'homme.
Non, c'est une chasse à l'homme, mais différente. C'est une chasse à l'homme qui est moins visible, mais c'est un travail d'investigation qui est mené tous azimuts.
Mohamed Amra, c'est un dangereux trafiquant de drogue, et pourtant, il n'était pas ce que l'on appelle un détenu particulièrement surveillé, hein, qui est une appellation très précise.
Oui, c'est-à-dire que l'administration pénitentiaire ne considérait pas qu'il avait ce statut particulier, besoin d'être surveillé au quotidien en détention. Pourquoi ? Parce que déjà, son profil en détention, il n'a pas spécialement posé problème jusqu'à présent. Puis il n'a jamais été condamné pour des affaires de grande ampleur. Il a été condamné 13 fois. La dernière fois, c'était mardi dernier, 18 mois ferme pour cambriolage. Bon, c'est pas un profil de délinquant chevronné. Alors effectivement, il n'a jamais été condamné pour trafic de drogue jusqu'à présent, même si on le soupçonne d'être mêlé à du trafic de drogue. On le soupçonne surtout d'être mêlé à des règlements de compte mortels ou des tentatives d'assassinat liées au trafic de drogue, notamment à Marseille, avec un homme qui avait été retrouvé dans une voiture calcinée. Il est mis en examen dans ce dossier. Et donc, si vous voulez, il y a un décalage entre son profil tel qu'on le connaît et la mise en œuvre de moyens lourds, comme on a pu voir hier par ce commando armé de fusils mitrailleurs, pour le faire évader. C'est pas une attaque à laquelle on aurait pu s'attendre pour ce type de délinquants, ce type de détenus, de ce qu'on en connaît. Une précision néanmoins, l'administration pénitentiaire ne l'a pas considéré comme DPS, mais sur son escorte, ils avaient mis un niveau un peu supérieur. Il était classé niveau 3 sur 4. C'est pour ça qu'il y avait 5 agents armés hier, il y avait 2 véhicules. Donc il y avait quand même une attention particulière sur ce transfert.
Et ces véhicules, Guillaume Biais, vous restez évidemment avec nous. Et ce véhicule, Emmanuel Baudouin, ces deux véhicules, ils ont pris la route, ils ont passé le péage.
Est-ce que c'était pas une mise en danger? C'est-à-dire qu'on se dit un péage, par exemple, où il y a effectivement énormément d'autres voitures. On a d'ailleurs vu les vidéos prises par des témoins, puisqu'il y avait des personnes sur la route, des personnes qui passaient le péage. Qui avait connaissance du parcours du convoi?
Bah écoutez, après, on prend souvent le moyen le plus rapide, c'est-à-dire l'autoroute, hein, pour aller très vite, justement pour pas s'arrêter, éviter les petites routes. Donc je pense que, alors après, je pense qu'ils ont été suivis, puisqu'on voit bien qu'il y a une voiture qui les suit derrière, qui les prend en sandwich. Malheureusement, j'ai envie de dire, et monsieur a raison, enfin le profil ne pouvait pas laisser penser qu'on aurait, et on assistait à une exécution. Hein, enfin, et voilà, ils ont tiré, ils ont laissé aucune chance à nos collègues. Donc voilà, je pense qu'il y a, eu, il a scié les barreaux, ce qui, deux, trois jours avant, je pense que c'était pour essayer de se retrouver justement à l'isolement en quartier, pour être seul et éviter d'être, vous savez qu'on a une surpopulation et tout se sait en prison, tout, on entend tout. Donc pour éviter, pour préparer cette évasion, je pense qu'il a voulu se retrouver seul et il avait très certainement un téléphone portable, comme beaucoup.
Mais alors,
malheureusement.
Ça, pardon, c'est vrai que c'est complètement sidérant. C'est-à-dire qu'on est... alors, je suis peut-être extrêmement naïve, mais je trouve d'autant plus que quand on dit à l'isolement, en fait, on n'est pas isolé du tout si on a un téléphone.
Alors,
on peut avoir un téléphone. Je veux dire, quand on rentre dans une cellule d'isolement, on n'est pas fouillé, on n'est pas...
Si, malheureusement, on peut cacher dans des orifices, je vous laisse deviner, ce genre de téléphone, et c'est...
Mais si vous le savez, enfin, je sais pas.
C'est difficile de... Alors, ils sont surveillés, après, il y a des systèmes de brouilleur téléphone qu'il faut qu'on déploie, c'est ce qu'on a de redemander au ministre hier, ce qu'on va lui demander à 14h. Il faut déployer ces brouilleurs qui fonctionnent.
Il n'y a pas de brouilleur. Actuellement, il n'y a pas de brouilleur.
Non,
donc, on sait qu'il y a des téléphones. Il n'y a pas de brouilleur.
Ben, il faut déployer. On commence par les établissements les plus sensibles. D'ailleurs, il était à la maison d'arrêt d'Evreux. C'est pour ça qu'il n'était pas considéré comme un détenu sensible à risque d'évasion. On cible les maisons centrales, les gros établissements pour Fresnes, où on a des détenus avec un potentiel d'évasion plus important.
Quand vous dites il a vraisemblablement, ou en tout cas c'est une des hypothèses que vous émettez, commencé à scier ses barreaux, peut-être pour justement qu'on le punisse en quelque sorte et qu'on le mette à l'isolement, a-t-il véritablement... C'est-à-dire, c'est une hypothèse que vous émettez ou est-ce qu'il a vraiment été à l'isolement dans les deux jours qui ont précédé
Ah non, il a été suite...
Il pouvait passer ses coups de fil tranquille du coup.
Alors il pouvait, non, parce qu'il est surveillé, mais effectivement, en service de nuit, les agents ne sont pas derrière l'œilleton, et puis je vous rappelle le manque d'effectifs, la surpopulation carcérale qui aujourd'hui fait que vous avez des agents tout seuls qui gèrent 150-180 détenus sur une coursive, et on a un manque d'effectifs...
Pour vous, c'est ce qui est arrivé hier est aussi le résultat d'un manque de moyens.
Oui, et surtout le fait, et on le demande, c'est ce que j'ai fait quand j'ai vu le ministre hier, c'est la plateforme revendicative de l'interface.
Vous revoyez le ministre aujourd'hui. Hein.
Oui, il faut arrêter d'extraire ces détenus pour tout et pour rien. Des fois, on sort des détenus pour signer un acte de divorce. Ça n'a aucun intérêt. On pourrait faire ces choses-là à l'intérieur de la prison ou en visio. Les gros procès, bien évidemment, qu'on a besoin d'un tribunal, que la famille a besoin, les victimes, de ce procès. Mais là, on y met les moyens. On passe notre temps sur la route à extraire des gens pour tout et pour rien.
Mais sauf que les choses sont parfois plus compliquées du point de vue, justement, de ces failles et du refus de certains prévenus ou des personnes qui sont en prison d'être jugées par visio ou d'avoir ces échanges par visio. C'est le témoignage que vous vouliez apporter. Patrick, bonjour.
Oui, bonjour Apolline,
bonjour
Guillaume Bié, bonjour Monsieur Baudouin.
Vous êtes vous-même avocat, vous êtes avocat à Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme. Et Patrick, vous avez parmi vos clients des détenus, vous vouliez réagir?
Oui, je voulais réagir parce que j'entends dire beaucoup de choses ce matin à l'antenne. J'aurais tendance à dire que les barbares sont les maîtres du jeu et jouent avec la justice. Mmh. Et je vais vous expliquer pourquoi.
Patrick, je vous entends mal. Allez-y, redites, ouais.
Oui, je disais que les barbares sont les maîtres du jeu et jouent avec la justice. Et encore une fois, tout ceci est une question de moyens. Pourquoi ? Notamment au niveau de la visio, il faut savoir que les détenus peuvent refuser les visios. Mmh. Et quand ils refusent les visios, bien évidemment, devant les audiences des tribunaux correctionnels, les magistrats renvoient les affaires. Mmh. Et les détenus se passent, bien évidemment, le mot. En disant, bah écoute, si tu veux pas être jugé, t'as qu'à refuser la visio.
C'est-à-dire que si... Non mais attendez, je voudrais comprendre. Du coup, on lève le jugement, il n'y a pas de jugement.
Il n'y a pas de jugement, ou plus exactement, le jugement, l'audience est renvoyée. Alors, voilà. Vous avez des parties civiles qui sont présentes à l'audience. hein, qui attendent réparation de leur préjudice et qui s'entendent dire par le juge, le magistrat, le président du tribunal, écoutez, je suis désolé, vous avez le prévenu qui a refusé la visioconférence, donc je suis obligé de renvoyer votre affaire.
Oui, donc ça peut même être à la dernière minute.
Oui, c'est ça. Mais la visio n'est pas non plus la panacée, hein, puisque pour moi, la justice, elle est rendue entre quatre yeux et on ne peut pas véritablement apprécier la personnalité d'un individu.
Mais je trouve ça très intéressant de vous entendre ce matin parce qu'on a effectivement le côté pénitentiaire, on a eu effectivement aussi des témoignages de policiers, mais vous qui êtes avocat, on a l'impression du coup avec vous de boucler la boucle. Comme avocat, et alors que j'imagine que parmi vos clients, il y a effectivement un certain nombre de bandits, vous considérez aujourd'hui que la justice fonctionne ou ne fonctionne pas ?
Non, la justice, elle ne fonctionne plus du tout. Elle ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner. La justice est véritablement cabossée. Vous avez des prisons surpeuplées, ça a été dit. Vous avez des magistrats et des greffiers en sous-effectif. Et vous avez des auxiliaires de justice, parmi lesquels nous faisons partie, nous avocats, en burn-out, et qui, au quotidien, sont confrontés aux défaillances du service public de la justice. Et ce drame absolu est un drame qui est la conséquence de ces défaillances. Hein, une escorte 3, niveau 3, pour ce type d'individu, mais c'est ahurissant.
Merci Patrick d'avoir apporté aussi votre éclairage. Je rappelle que vous êtes avocat à Clermont-Ferrand. Vous nous avez appelé au 3216. Retour sur ce plateau avec vous, Emmanuel Bonon. Quand vous entendrez le cri de colère quand même de Patrick qui dit à l'instant, au fond, la justice est défaillante. Est-ce que vous partagez ?
Mais la justice a été le grand oublié pendant des années. On n'en parle que quand il y a des élections ou quand aujourd'hui il y a des moyens qui ont été mis. Hein. Il y a des budgets. On vient de faire une réforme, mais les réformes elles mettent du temps à apporter ses fruits. Là, je le redis pour éviter ce genre de choses. Je parle pas du jugement, mais quand pour une audition, le juge il peut se déplacer aussi à la prison. Oui. Là où on est faible, où on est en danger, c'est quand on est à l'extérieur. Bien évidemment, quand il s'agit du jugement, on le fait au tribunal, mais on met des moyens et on n'est pas pollué par toutes ces sorties à droite, à gauche. Enfin, les agents qui sont décédés et qui ont été les prêches aujourd'hui font jusqu'à 70-80 heures supplémentaires par mois. Mmh. Ils finissent des fois à minuit pour reprendre le travail à 5 heures du matin parce qu'il faut absolument présenter. Il faut que les magistrats aussi, ils entendent. Vous savez, les magistrats, c'est compliqué. Quand on voit la surpopulation, c'est eux qui ont la main. Faut le redire. Je leur ai écrit, j'ai écrit à tous les députés. Enfin, je veux dire, la prison, c'est pas la réceptacle de toute la misère. Il y a des peines aménageables, il y a l'incarcération à domicile. Construire des prisons, on peut en construire autant qu'on veut. Il y a aussi d'autres façons. Mettre quelqu'un en prison pour un mois, ça a aucun sens. Il y a des tas de choses à faire. Il faut réouvrir des hôpitaux psychiatriques. On gère des gens, des fous, qui n'ont rien à faire chez nous. Donc il faut arrêter et repenser la prison. Parce que la réinsertion, ça fait partie de nos métiers. Et aujourd'hui, quand vous mettez 6 détenus dans une cellule de 9 mètres carrés...
D'ailleurs, c'est ce qu'on entendait tout à l'heure avec Didier qui disait certains s'en sont sortis, et c'est aussi la beauté de notre métier, que d'être y compris au contact avec ces gens-là. Un mot encore, Emmanuel Baudon. À 11h, une minute... Baudin, à 11h, une minute de silence. Et à 14h, vous avez donc rendez-vous avec le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Vous lui demanderez notamment ses brouilleurs. Vous lui demanderez davantage de moyens.
On va lui demander ça. On va lui demander d'imposer aux magistrats un certain nombre de choses. Le détenu doit pas pouvoir choisir s'il veut ou il accepte la visio. On doit lui imposer, je vous dis, pour les auditions, pas pour le jugement, mais on doit réduire drastiquement toutes ces extractions judiciaires. Et là, aujourd'hui, toutes les prisons sont bloquées ce matin en France.
Merci infiniment d'être venu dans ce studio ce matin. Emmanuel Baudin, je rappelle que vous êtes secrétaire général du syndicat FO Pénitentiaire. Il est 7h52.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, tout autre chose. Expliquez-nous avec vous, Nicolas Poincaré.
Et je vous explique à quoi ressemblent les derniers progrès de l'intelligence artificielle.
A tout de suite.
Apolline Matin.
Le bonus RMC.
Le bonus RMC, le bonus de Charles. Avec sa 4e place à l'Eurovision, Slimane se lance dans une tournée mondiale.
Mon amour.
Oui, il nous a tous donné des frissons samedi soir, Nicolas.
J'ai chanté toute la journée, Slimane, voilà. Hier.
On l'a tous en tête. Et on n'est pas les seuls après cette prestation et cette chanson, donc Mon Amour, qui depuis cartonne sur les plateformes. Un record pour Slimane. Le titre a été écouté 1 800 000 fois sur Spotify en 24 heures. C'est tout simplement le record historique pour une chanson francophone. La chanson est évidemment numéro 1 en France, mais aussi dans le top 10 d'une quinzaine de pays. Et fort de ce succès, Slimane a annoncé hier sur Instagram qu'il se lançait dans une grande tournée mondiale en 2025. Alors les 8 et 9 janvier, il sera bien à l'Accor Arena à Paris, en France, mais ensuite il va se produire dans une dizaine de pays européens, puis au Canada et aux États-Unis en février. Ouverture de la billetterie ce jeudi à 10h et ça va partir très vite.
Encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron ?
Bonne pêche ?
Pour Lidl, oui. En ce moment, les deux filets de limande du Nord MSC façon Meunière sont à 2,39€ les 200 grammes au lieu de 3,40€, moins 29%.
2,39€ ?
Et avec l'appli Lidl Plus, il y a moins 33%, soit 2,25€ les deux filets.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. 11,95€ le kilo, 11,25€ avec l'application Lidl Plus. Transformée en France. Offre valable jusqu'au dimanche 19 mai. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Alors moi, aux réunions de famille, pour prendre la photo parfaite, c'est l'enfer. Genre, bougez plus, ouvrez les yeux. Mais grâce au Samsung Galaxy S24, avec l'intelligence artificielle qui fait des retouches photos en direct, là c'est...
Elle est parfaite, on a réussi.
En ce moment chez SFR, l'IA est à l'honneur avec jusqu'à 220€ de remise sur une sélection de smartphones 5G Samsung, comme le Galaxy S24. Appelez le 1090, service et appel gratuit. SFR, soyez-vous.
Offre soumise à condition avec un forfait 5G éligible, engagement 24 mois jusqu'au 19 mai. 5G sous réserve de couverture.
Dans moins d'une minute sur RMC.
Expliquez-nous avec Nicolas Poincaré.
La Poste. Déjà ? Adverbe qui, prononcé de manière surprise, décrit une chose qui arrive bien plus vite que prévu, comme par exemple une indemnisation.
Alors pour être indemnisé sous 48 heures en cas de sinistre couvert, découvrez l'assurance habitation de la Banque Postale. Pendant les bons plans logement de La Poste, pour toute nouvelle souscription jusqu'au 19 mai inclus, les 4 premiers mois sont offerts. Conditions sur la banquepostale.fr. CNP Assurance IARD, dénommée sous la marque La Banque Postale Assurance IARD, entreprise régie par le Code des Assurances.
Total Energy présente.
Papa, t'es encore sur ton téléphone ?
Ouais, mais là, je souscris un contrat d'électricité pour ma boîte. Total Energy offre 100€ pour les pros.
Profitez de 100€ offerts en souscrivant une offre d'électricité pour votre entreprise au 30,99€. Total Energy, élu service client de l'année 2024. Dans la catégorie fournisseur d'énergie pour entreprise, plus d'infos sur escda.fr. Promo valable pour les entreprises jusqu'au 30 juin 2024, par condition sur totalenergy.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
RMC, Apolline Matin.
Expliquez-nous, Nicolas Poincaré.
Expliquez-nous.
Nicolas, la dernière version de ChatGPT a été présentée hier en Californie. Ce nouveau modèle d'intelligence artificielle permet de dialoguer avec une machine comme avec une personne.
Oui, et c'est très impressionnant. Les petits génies de l'entreprise OpenAI ont fait hier une démonstration assez bluffante de leurs dernières avancées. Il y a 2 ans, ils avaient lancé ChatGPT, l'intelligence artificielle capable d'écrire des romans, de composer des chansons ou de créer des fausses photos du pape en doudoune. L'année dernière, c'était le lancement du deuxième étage de la fumée avec ChatGPT-4, plus puissant. Et puis voici maintenant le troisième étage donc, qui a été lancé hier, ChatGPT-4O.
Qu'est-ce qu'il a de nouveau ?
Alors, il est très très fort à l'oral. Il parle 50 langues. On peut vraiment discuter avec lui comme avec un être humain. On peut le couper lorsque les explications sont trop longues. Il répond à une question avec après environ un tiers de seconde, c'est-à-dire le délai normal d'un être humain. Il peut faire des blagues. Il utilise des onomatopées, des O, des A, des petits rires gênés. Hier, lors de la démonstration, les ingénieurs lui ont par exemple demandé un cours de respiration qui s'est déroulé dans la bonne humeur et dans l'interaction. La machine a fini par lâcher à son élève « Arrête de respirer comme un aspirateur », ce qui était assez drôle. On peut aussi faire un selfie et lui demander de quoi j'ai l'air. Et il répond par exemple « Tu as l'air très heureux », autrement dit, il peut lire les émotions sur un visage. Mais ce qui est le plus prometteur et qui fait rêver, ce sont ses capacités de traduction simultanée. Lors de la démonstration, une Italienne parlait à un Américain et ChatGPT traduisait immédiatement en imitant celui qui parle avec les bonnes intentions et même avec un léger accent italien. Cela ouvre la perspective de voyager partout dans le monde et de pouvoir facilement parler à tout le monde, en Chine comme au Japon. Cela existe déjà, les traducteurs vocaux, mais certainement pas avec cette fluidité.
Il y a 2 ans, certains s'étaient inquiétés de la puissance de ces intelligences artificielles.
Oui, souvenez-vous, on avait beaucoup parlé des millions d'emplois qui pourraient être détruits. On sait que l'intelligence artificielle peut servir la désinformation en créant des fausses vidéos, des fausses interviews qui pourraient nous faire croire n'importe quoi. On a aussi évoqué des risques plus grands encore, celui d'intelligence hors de contrôle qui pourrait mener à l'extinction de l'humanité. Tous ces débats sont en cours et ils sont passionnants, mais on entend aussi des voix qui relativisent. Par exemple, celle du français Yann LeCun, qui travaille pour Meta et qui est un des meilleurs spécialistes au monde de l'intelligence artificielle. Il rappelle qu'elle ne sait pas raisonner ni penser. Il estime que pour l'instant, ces machines sont 50 fois moins intelligentes qu'un enfant de 4, moins intelligentes qu'un enfant de 4 ans.
Bon.
50 fois.
C'était les explications de Nicolas Poincaré. Dans un instant, le météo journal.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Vous saviez que Toyota est la marque la plus fiable du marché ? Toyota a confiance en ses véhicules et vous propose un programme inédit. Avec Toyota Relax, à chaque entretien de votre Toyota, dans le réseau agréé et jusqu'à ses 10 ans, vous bénéficiez d'une nouvelle garantie additionnelle. Et ce, même si votre voiture est d'occasion. Avec Toyota Relax, il y a vraiment de quoi être détendu. Voir conditions sur toyota.fr.
Ça, c'est vos dépenses qui viennent de tomber. Et ça, c'est encore et encore des dépenses. Eh oui, quand on est un professionnel du bâtiment, on en a de l'argent à sortir. Alors on vous en fait économiser. Chez Leroy Merlin, profitez de remises permanentes jusqu'à 8% sur tous vos achats avec notre programme de fidélité 100% gratuit.
Leroy Merlin, on peut tout construire ensemble, même l'avenir.
Adhésion et conditions du programme en magasin.
T'as envie de changement ? Pourquoi tu déménages pas ?